de Lucas Vázquez. La pide Benzema, la pone Lucas Benzema. ¡Taconazo! Uruguayo Cristiano Oliva jugando y para. La carrera de José Lu, golpeo, golazo.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts LIAC. On espère que vous allez très bien et puis on attaque aujourd'hui la 37e journée du championnat, l'avant-dernière journée donc. Et on a coutume de le dire, c'est vrai que c'est encore plus vrai cette semaine, mais le championnat est encore plus proche de sa fin. Mais pourtant les enjeux sont encore présents. On rappelle quand même qu'il y aura un multiplex de 9 rencontres ce dimanche soir. Et on va s'attarder sur un des matchs importants de ce dimanche justement. Un match pour l'Europe qui promet quand même beaucoup. Un match entre Villarreal et la Real Sociedad, parce qu'on a deux équipes quand même qui sont sur une dynamique assez intéressante et puis surtout qui ont quand même une place en Europa League à assurer. Je vais commencer par Cyril qui est avec nous pour nous parler de Villarreal. Comment tu vas, Cyril?
Ça va bien, bien, bien. Merci.
Eh bien écoute, avec plaisir. Et puis du côté de la Real, on retrouve Lucas qui revient dans les podcasts. Salut Lucas, comment tu vas?
Salut Ruben, ben ça va très bien, très content de revenir pour parler de ce très gros match de ce week-end.
Et puis effectivement, on va parler également, tu disais, de ce très gros match avec Sacha qui complétera les propos de nos intervenants. Comment tu vas, Sacha?
Mais écoute, ça va super, fait, voilà, toujours, ça fait plaisir d'être là, de parler de super match avec deux équipes qui jouent au football. Et puis bon, 37e journée, c'est vraiment le money time en Liga, et c'est un match qui va être très important pour les places qualificatives, soit en Conference League, soit en C3, en Europa League.
Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai qu'au final, quand on regarde le classement, il y a quand même assez peu de choses qui sont figées, puisque du coup, on sait qu'il y a le Real qui est champion, Levante qui a été relégué, il y a le Barça qui a assuré sa place en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal quand même de choses à décrypter qui vont jouer dans ces deux dernières journées, et surtout dans cette 37e journée. Et ben on va pouvoir commencer d'abord en revenant quand même avec toi, Cyril, sur ce match, sur cette double confrontation, surtout contre Liverpool. Cruel demi-finale retour, j'ai envie de dire, et destin un peu difficile, mais pour toi, qu'est-ce qui a manqué voilà dans ce match pour Villarreal au match retour du côté de la Ceramica, donc cette défaite, on le rappelle, qu'est-ce qui a manqué pour toi du côté de Villarreal?
Et au-delà du fait que là, évidemment, on touche au haut du panier, avec en face une équipe qui remportera d'ailleurs peut-être pas forcément la Champions League, je vois plus le Real le faire, ou même peut-être même pas la Première Ligue non plus, mais qui pour moi est intrinsèquement la meilleure équipe d'Europe, la plus complète à tous les niveaux. Donc déjà tu te frottes à ce qui se à vraiment un très très gros morceau. En plus, alors ça c'est pas l'essence, enfin c'est pas la seule raison, mais c'est quand même pour moi une explication énorme. C'est l'absence de Gerrard à l'aller et le fait qu'au retour il soit pas à 100% au coup d'envoi, et que à partir de la 30-35e minute, si je dis pas de bêtises, Chukwueze part s'échauffer. On sait que Gerrard sortira à la mi-temps, ou il sortira en début de deuxième période, ce qui s'est passé. Que quand on connaît l'impact de ce garçon sur le jeu de Villarreal en tant que tel, et son impact à la fois sur ses coéquipiers et sur ses adversaires, on sait que ça risque d'être très 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 compliqué, qu'en plus on a vraiment le sentiment que sur cette première mi-temps du match retour, on évolue à un niveau, je ne sais pas si on surjoue, parce qu'on sait que cette équipe-là pouvait déjà jouer comme ça, a déjà pu jouer comme ça cette saison, mais là, à un tel niveau, c'est assez extraordinaire. Donc pour arriver là, on a quand même laissé énormément d'énergie physique, mentale, et il n'y avait plus grand-chose dans le réservoir à la mi-temps. Si tu ajoutes à ça l'entrée de Luis Diaz en début de deuxième, qui nous fait très mal, tu sens que ça a mis à part quelque chose de totalement irrationnel, toujours possible mais dans le foot, mais tu sens que ça va être très très compliqué, que ça finira par lâcher fatalement, et ça a fini par lâcher. Donc après, ça, je dirais que sur le coup, c'est... Évidemment, c'est dur parce qu'il y a le côté ascenseur émotionnel, évidemment, mais malgré tout, on relativise vite, on regarde un peu ce qu'on a, la montagne qu'on a réussi à gravir pour arriver jusque-là. Les équipes qu'on a réussi à sortir, que ce soit en phase de groupe, que ce soit en huitième avec la Juve et le Bayern Leverkusen. Et on se dit qu'on a pris des souvenirs pour les 10 prochaines années et que ça reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans tous les sens du terme, quoi.
Ouais, exactement. Et puis c'est ce qu'on disait déjà avant un peu d'enregistrer ce podcast aussi. C'est vrai que Villarreal, c'est quand même, voilà, on disait une ville de 50 000 habitants. Et quand on compare vraiment le parcours que vous avez fait, enfin quand on observe le parcours que vous avez fait, on peut qu'être fier. Et c'est ce qu'on disait. Il y a eu l'Europa League déjà la saison dernière, mais cette demi-finale a donné encore une notoriété encore plus forte à Villarreal en Europe, mais aussi dans le monde auprès de beaucoup de d'autres, dans beaucoup d'autres pays, et en tout cas tu as bien résumé ce que tu avais ressenti durant cette demi. Sacha, je te laisse un peu compléter si jamais tu le veux pour ce que Cyril nous disait quant à cette demi-finale.
Avec plaisir, mais j'ai pas grand chose à ajouter à ce que dit Cyril, parce qu'on pense à peu près la même chose. C'est vrai, comme tu l'as dit, on en parlait un peu en off avant le podcast, et oui, forcément, quand il y a un match à élimination directe qui se joue en aller-retour et que le retour est en Espagne, il y a toujours cette atmosphère de remontada. Il y a toujours ce côté si se puede, parce que c'est dans l'ADN en fait des clubs espagnols en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou que sais-je encore. Voilà, il y a toujours cette ombre qui peut planer sur l'adversaire, et c'est vraiment, j'ai l'impression, culturel, parce que ça peut aussi arriver ailleurs, parce que ça reste de très bonnes équipes, mais il y a vraiment cette dimension là en Espagne, et on y a tous vraiment cru. C'était un peu comme un manuel en fait. On disait pour Villarreal, il fallait rester envie au match aller, c'est-à-dire ne pas en prendre 3 ou plus, et marquer tôt au second. Et alors que Villarreal avait été totalement dominé à Anfield, ils avaient mine de rien un peu tenu la baraque avec 2-0, et ils ont le bonheur, la joie de marquer un premier but au bout de 3 minutes de jeu, et pendant toute une période d'asphyxier littéralement Liverpool, de même en planter un second, donc de revenir à égalité. Et puis, comme l'a très bien dit Cyril, c'est le propre de l'extraordinaire. Et l'extraordinaire tendait à devenir plutôt ordinaire, avec, comme on l'avait dit aussi, une phase de poule déjà super bien maîtrisée, où tu passes avec Manchester et l'Atalanta. Alors certes, avec quelques sueurs froides à la fin du match contre l'Atalanta, mais tu passes, tu crées l'exploit face à la Juve, tu crées l'exploit face au Bayern. Et quand tu t'appelles Villarreal en Ligue des Champions, voilà, tu as besoin d'avoir ce côté irrationnel, extraordinaire. Mais s'il se répète trop à la fin, tu n'es plus Villarreal, tu es peut-être justement le Real Madrid, le Barça de la grande époque ou un grand club, et tu gagnes. Et dans ce côté-là, voilà, ça fait partie de leur récit. Et quand Liverpool s'est réveillé, quand le volcan s'est remis à cracher sa lave, qui a été matérialisé par l'entrée de Luis Diaz. Malheureusement, il y a une équipe qui a, je pense, émotionnellement craqué, parce que ça s'explique aussi par des défaillances individuelles. C'est vrai qu'on a tous en tête, par exemple, Rulli, et il le symbolise assez bien. C'était peut-être trop haut, et la réalité les a rattrapés, mais en tout cas, ils ont donné des émotions extraordinaires. C'est le propre du football, et on a vu juste une bande de potes, un peu comme le décrivait Capou, s'amuser au football, jouer comme s'il n'y avait pas de lendemain, que c'était leur seule et unique chance, mais qu'ils la saisissaient à fond, et c'est rafraîchissant, ça fait vraiment plaisir. Après, voilà, le rêve s'est arrêté, mais au moins on voit un club qui sait se battre, comme on dit en Espagne, que sabe competir, et ça c'est très intéressant, et ils peuvent construire, je pense, là-dessus.
Ouais, c'est une épopée, en tout cas, c'est le terme qu'on a beaucoup utilisé, c'est vrai, il y a cette élimination, mais vous l'avez dit, qui va beaucoup servir à cette équipe de Villarreal, qui peut même servir d'ailleurs à beaucoup de clubs aussi comme exemple, puisque il y avait déjà beaucoup de discours qui, l'année dernière, après l'Europa League, se référait au parcours de Villarreal, justement, comme exemple. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez, assez marquant. Je passe avec toi maintenant, Lucas, pour parler un peu de la Real Sociedad, parce que la Real s'est quand même assurée, à l'issue de cette 36e journée, une troisième saison de suite en Europe, ce qui est quand même assez incroyable, et c'est surtout une première au XXIe siècle. Est-ce que toi, tu fais d'Immanuel Alguacil l'artisan de ce succès, de cette réussite, en tout cas, à enchaîner les qualifications en Europe?
Oui, forcément, il en fait partie. Cette série, elle a débuté à partir du moment où il a pris la tête de l'équipe. Donc, si à chaque fois il arrive à se qualifier en Coupe d'Europe, c'est grâce à lui aussi. Mais c'est aussi grâce à un groupe qui évolue ensemble depuis un bon moment, qui a construit des choses, qui a vécu de grands moments ensemble. Donc, je parle en finale de Copa, et petit à petit qui acquiert de l'expérience en Coupe d'Europe. Donc, après, c'est de la Coupe d'Europe, mais c'est pas forcément celle qu'on désirait avec au bout de tant de séries. Même si on doit faire encore 3, 5, 10 ans, si c'est encore de l'Europa League ou si c'est peut-être de la Conference League, au bout d'un moment, je pense qu'on peut se permettre, surtout au vu du classement cette saison, comme beaucoup l'ont dit dans la communauté de la Real, c'était peut-être la saison où c'était le plus simple d'accéder à la Ligue des Champions. Et on n'arrive pas forcément à accrocher ces points en plus contre des équipes plus faibles. Là, je pense contre le Rayo et l'Levante où on perd 4 points. C'est largement des points qui sont à notre portée, surtout que on est performant contre les plus petites équipes, là où d'autres équipes se trompent, n'y arrivent pas. Nous, c'était notre force, on arrivait à prendre les points contre ces équipes-là. Et c'est peut-être ça fait que Imanol, ben, là-dessus, est peut-être un peu juste, des changements pas forcément au bon moment, pas les bonnes personnes au bon moment. Donc. Mais après, peut-être que si on lui laisse encore 2 ou 3 saisons, peut-être qu'au bout d'un moment, on arrivera à accrocher cette Ligue des Champions et qu'on fera partie du wagon du Real, du Barça, de l'Atlético de Séville. Et qu'on arrivera peut-être à en gratter un et à aller chercher un. Mais c'est peut-être cette saison, c'était la bonne saison pour aller chercher une Coupe d'Europe. Quand on voit que au début, le Barça galérait, l'Atlético, c'était pas impérial, et que Séville, en ce moment, ça cale complet. Du coup, c'était peut-être la saison la plus simple. Mais bon, après, l'avenir nous le dira et on verra si Manol arrivera à nous qualifier pour d'autres Coupes d'Europe, parce que c'est déjà très bien, et pour la Ligue des Champions.
Ouais, et puis c'est vrai que tu le dis, il y a encore cette place à déterminer, puisque Europe, c'est vrai, pour le moment, la Real est 6e, et donc synonyme de place en Europa League, mais il y a toujours la possibilité de terminer en Conference League. On y reviendra dans la question suivante, justement, avec Cyril. Bah, c'est là, je te laisse compléter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que disait Lucas, que ce soit sur Imanol ou bien même sur le groupe aussi, les joueurs en eux-mêmes qu'il a évoqué un peu plus tard?
Bah, pareil que pour Cyril, c'est vrai que ben il a à peu près tout dit là-dessus. Moi, mon avis, c'est que ben, c'est déjà oui une vraie performance aussi, et j'aimerais faire un parallèle avec ben, justement le côté extraordinaire de Villarreal en Champions League. Ben, là, c'est un peu quand même aussi un côté extraordinaire pour la Real Sociedad, parce que c'est un grand club, il n'y a pas de souci, c'est un club qui a aussi déjà gagné des titres. Mais comme tu l'as dit dans la question, c'est que la première fois au XXIe siècle où ils enchaînent 3 saisons d'affilée en Europe, et on parle même pas de qualification en Ligue des Champions. Donc déjà ça c'est aussi extraordinaire d'arriver sur quand même 3 saisons à qualifier le club parmi ben, les meilleurs et les faire se battre après contre pareil des très bonnes écuries européennes. Donc là sur ça c'est un axe de progression qui est vraiment intéressant parce que mine de rien il amène la Real Sociedad à être directement considéré comme ben, un club européen au début de la saison, chose qui n'était pas le cas quand il est arrivé. Alors on sait très bien qu'il y a eu déjà des Real Sociedad en Ligue des Champions. On peut penser notamment ben, à l'année où ils éliminent Lyon avec le superbe but d'Antoine Griezmann. Mais voilà, c'est, je pense, ce qui manque à ce genre de club qui essaye juste de grandir, c'est la constance. Et cette constance, il est vraiment en train de la donner. Après, c'est vrai qu'un bémol, la Real Sociedad avait encore une fois très très bien commencé son championnat. C'est une équipe où il y a énormément de talent. Vraiment, quand on regarde toutes les lignes, on voit des joueurs de qualité. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose. Et comme d'habitude, il y a eu ce trou d'air pendant 2, 3 mois avec vraiment des résultats en dents de scie et malheureusement plus de bas que de haut. Et on a du coup une Real qui ne se mêle pas à la lutte pour la Ligue des Champions parce que comme Lucas le disait, c'était peut-être l'année la plus facile pour se qualifier. Et c'est vrai parce que mine de rien, le Barça a eu beaucoup de difficultés, mais devrait quand même faire deuxième avec pas mal de points d'avance. Mais quand on voit les dynamiques de Séville et de l'Atleti, C'est dommage justement de ne pas avoir peut-être su mettre la pression, de ne pas avoir su gagner certains matchs. Il y a eu des problèmes de réalisme. On pense notamment à cette défaite face à Levante avec les deux poteaux d'Isaac. Mais avec un dernier match à Anoeta, du coup, en accueillant l'Atleti, il y avait, je pense, quelque chose à faire de vraiment exceptionnel aussi. Mais bon, il faut regarder les choses avec un œil, avec un peu plus de recul et sur un plan un peu plus global. Et oui, c'est vraiment, je pense, l'artisan parce qu'il apporte cette stabilité. Il arrive à amener certains joueurs à un niveau de compétitivité qu'ils n'auraient peut-être pas ailleurs. Il incarne quelque chose. Il bat record de longévité après record de longévité en termes de matchs disputés. Je crois que c'est désormais le cinquième entraîneur le plus capé de la Real au 21e siècle ou ça doit être une chose comme ça. Mais bon, donc voilà. C'est oui, lui l'artisan, je suis d'accord. Et peut-être que pour l'année prochaine, il y aurait encore des axes d'amélioration à trouver. Pourquoi pas cette fois-ci vraiment se battre jusqu'au bout pour une place dans le top 4.
Ouais, et exactement, je me permets de valider ce que tu disais concernant Imanol, que c'est bien le cinquième entraîneur avec le plus de matchs dans l'histoire de la Real. Donc effectivement, une longévité que tu avais bien présentée, puis que Lucas a également bien su aussi un peu résumer avec ses qualifications européennes qui, mine de rien, cette stat le montre, hein, la première fois au XXIe siècle, trois fois de suite, c'est quand même voilà, quelque chose d'assez remarquable. On parlait justement d'Europe, donc je reviens avec toi Cyril, parce que c'est vrai que Villarreal pour le moment est à 3 points de la Real Sociedad. Il y a ce match donc décisif qui arrive et surtout donc une possibilité en tout cas de passer 6e et donc de prendre cette place en Europa League. Est-ce que pour toi, voir Villarreal jouer à la Conference League la semaine prochaine, ce serait un échec Est-ce que même ça pourrait mettre, selon toi, en danger la croissance du club, on va dire, aussi bien sportivement que même, on va dire, dans la représentation qu'on peut avoir d'elle à l'international?
Alors déjà, à l'heure où à laquelle on parle, on n'est absolument pas sur les Européens du tout, déjà. Donc le simple fait d'être en Conference League, moi, honnêtement, encore une fois, à l'heure à laquelle on parle, je m'en satisferais vraiment. Compte tenu de la saison très compliquée qu'on a eue en Ligue 1. Après, tout dépend de la nature des clubs en question. Là, évidemment, si on parlait du Barça, de l'Atleti, évidemment, le simple fait déjà de jouer l'Europa League, c'est vécu comme une forme de rétrogradation. La Conference League, ça serait vraiment quasi une honte. Là, dans le cas de Villarreal, faut quand même avoir à l'esprit que ce qui s'est passé ces deux dernières saisons, notamment cette saison, comme on l'a dit, ça reste du domaine de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, de hors du commun, donc quelque chose qui sort de ce qui se passe habituellement. On a peut-être probablement vocation à se qualifier plus régulièrement en Champions League, plus régulièrement qu'une fois tous les 10 ans. Malgré tout, Villarreal reste un club largement plus calibré pour l'Europa League et donc maintenant pour la Conference League, qui est un peu la petite sœur entre guillemets quoi. Pour moi non, ce serait pas en soi, ce serait un moindre mal, je dirais. Et puis surtout, il faut quand même avoir à l'esprit que la galerie de trophées de Villarreal déborde pas non plus de tous les côtés. Donc, ce qui s'est passé l'an dernier a donné un peu d'appétit à tout le monde. On aimerait bien revivre des trucs comme ça, aller chercher un trophée européen. Autant la Champions League, je pense qu'il faut quand même être sensé. C'est quand même quelque chose de très haut, de trop haut pour un club comme Villarreal. Que ce qui s'est passé cette année est exceptionnel, mais que là, pour le coup, ça n'a pas vocation à se répéter régulièrement. Des compétitions comme l'Europa League ou la plus forte raison de la Conference League, je pense que le simple fait de s'aligner au départ nous ferait de nous, ferait Villarreal un candidat, peut-être pas le favori absolu, mais un candidat au titre clair. Quand on voit les demi-finales, c'est des affiches des demi-finales cette saison, on a le représentant anglais, le représentant italien, le représentant français, le hollandais. Bon, il n'y a pas d'espagnol parce qu'il n'y avait pas de club espagnol aligné au départ, et je dirais que le seul qui manque, c'est un club allemand. Mais sinon, on voit que globalement, c'est une compétition qui est quand même plus abordable, dans laquelle on peut, a priori, avoir notre carte à jouer. Bien moins énergivore, surtout, évidemment, que la Champions League, voire même que l'Europa League, ce qui peut aussi être combiné au fait de, enfin, faire une saison honnête, une saison acceptable en Liga, avec un classement un peu meilleur que celui-là, et avec une Champions League qui nous a énormément pompé d'énergie cette saison, même l'Europa League la saison d'avant, c'était compliqué à gérer les deux de front, sans compter les blessures, etc. Là, on peut se dire que sur une compétition comme ça, on peut aligner plus facilement, je dirais pas les équipes B, mais enfin, faire tourner beaucoup plus que ce qui a été le cas cette saison, où je pense notamment dans le cas d'un joueur comme Gérard, ça a été de Gérard Moreno, ça a été très préjudiciable, notamment pour lui. Donc là, je pense que c'est une compétition plus facile à gérer pour un club de l'envergure de Villarreal. C'est pas un manque d'ambition, mais c'est vraiment du réalisme par rapport à la façon dont le club est structuré, à la nature du club. Encore une fois, je pense qu'on a vocation à y retourner plus souvent qu'une fois tous les 10 ans en Champions, mais il faut aussi se rendre compte du fait que, enfin, il faut avoir à l'esprit le fait que ce genre de compétition, l'Europa League et la Conference League, sont des compétitions bien plus taillées pour un club comme Villarreal, sans que ça remette en cause une quelconque dynamique ou une quelconque croissance.
Ouais, très bien, en tout cas on comprend ton point de vue, puis c'est vrai que tu le précises bien, mais il y a toujours donc possibilité que Villarreal alors termine soit 6e soit également 8e, donc effectivement il faudra suivre ce qui se passera aussi au cours de cette 37e journée sur les autres pelouses. Et puis Sacha, bah, je te laisse la parole si jamais tu veux rajouter un peu des éléments, ce que Cyril a pu un peu évoquer, qui bon, lui a expliqué, voilà, qui, compte tenu de toutes les circonstances qu'il y avait, que cette place en C4 était quand même déjà une bonne chose. Est-ce que toi tu valides, ou est-ce que tu vois plutôt ça comme un échec? Comme je l'avais posé initialement, comment tu vois ça de tout pour Villarreal?
Un peu des deux, disons. C'est l'histoire un peu du verre, ben, soit à moitié vide, soit à moitié plein. C'est sûr qu'il a tout à fait raison. L'armoire à trophées déborde pas. C'est une compétition qui est abordable et qui, en plus, au moment où il y a les clubs reversés de C3, devient encore plus intéressante. On a vu cette saison de superbe demi-finale, quoi. Il y a entre la Roma qui affrontait Leicester et Marseille qui affrontait le Feyenoord. On a vu quand même des affiches un peu sympathiques. C'est un peu une compétition un peu vintage, et c'est sympa vraiment de découvrir ce format. Ensuite, c'est vrai que pour Villarreal, mine de rien, ce serait, oui, je pense, quand même un léger recul, parce que la C3 serait très très bien, parce que je pense que c'est un club qui est dimensionné pour ça, qui a des ambitions à terme de devenir vraiment un club important à l'échelle européenne, et se maintenir à un niveau minimum de Ligue Europa, ça peut vraiment aider en ce sens, parce qu'il y a toujours de la compétitivité et que c'est une compétition qui a de moins beaucoup plus d'exposition. Et cette semaine, il y a eu les travaux de la Ceramica qui ont été présentés dans une vidéo. Et à un moment de la vidéo, il y a le narrateur qui nous dit que l'éclairage qui est prévu dans le stade, si je me trompe pas, est un éclairage en fait pour type Ligue des Champions, qui aura toutes les commodités pour les grandes nuits européennes de Ligue des Champions. Ça a vraiment été martelé. Donc on sent que, mine de rien, c'est quand même un objectif important dans le club. Rappelons-nous de la croissance de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, selon une stat opta, sur les 21 dernières saisons avant le Cholo, n'avait été que 3 fois en Ligue des Champions. Depuis Cholo, 10 fois. On a vraiment un club qui, en 10 ans, est devenu un vrai cador européen en termes de budget, de joueurs, d'aspiration à chaque saison. Et je pense que Villarreal peut aussi se développer de cette manière, parce qu'il y a un vrai projet sportif et une réelle volonté de faire. Donc c'est pour ça. Se qualifier pour l'Europe, ce sera, quoi qu'il arrive, le minimum admissible. Maintenant, c'est vrai que la C4, ça pourrait passer comme la petite consolation, mais il vaudrait mieux qu'ils aillent en Ligue Europa. Ce serait plus en raccord avec leur standing.
Et puis d'ailleurs, j'ai pas vérifié avant, mais il me semble qu'en plus, comme ça se joue à la différence particulière, donc sur les confrontations directes, je crois que Villarreal avait remporté le match aller, il me semble, à Noeta. Donc à voir aussi ce qui se passera sur cette rencontre, mais en tout cas Villarreal pour le moment a une petite option sur la Real quant à ce qui va dire quant au classement final. Je reviens avec toi, Lucas, pour parler un peu de Oyarzabal, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, bah, l'équipe fait sans lui, l'équipe a quand même réussi à décrocher cette qualification sans lui. Mais pour toi, comment l'équipe, voilà, s'organiser pour composer sans son capitaine depuis maintenant plusieurs semaines?
Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix, il n'était plus là, et même si en cas d'absence, Il aurait pu être remplacé par exemple par Barrenechea, mais qui lui aussi est blessé. Et du coup, Imanol a fait des changements, a changé de dispositif. Donc aussi, ça peut expliquer quelques résultats, vu que bon, on cherchait un peu. Et donc a allié plutôt la paire en 4-4-2 Sörloth-Isak devant. Et voilà. Et après, donc Oyarzabal, c'était aussi un leader sur le terrain. Et je pense que d'autres joueurs ont parfaitement repris le rôle de leader, mais chacun ses lignes, donc des Mikel Merino, des David Silva ou des Robin Lenormand se sont imposés en tant que leader d'équipe, en tant que leader de vestiaire, pour pallier à cette absence et savoir jouer sans lui. Après, je pense que un des plus gros problèmes de son absence est que devant la finition, c'est pas trop ça. Quand on voit que Isaac, il tape tout le temps les poteaux, qu'il a un gros gros manque de finition. Il y a Sorloth qui se met un peu à marquer. Porto a marqué à peine son premier but le week-end dernier, c'était sur penalty. Il manque un joueur tueur devant le but, comme l'était Oyarzabal et comme l'est, j'espère, et quand il va revenir. Il manque un joueur tueur. Donc, et des joueurs tueurs, ça nous a coûté des points, donc comme contre l'Evante, comme contre le Rayo, comme contre le Barça, où Isaac et Sorloth nous ratent des grosses occasions de revenir à 1-1. Ça, c'est des points importants qui nous manquent quand on n'a pas de réel finisseur. Et c'est là où Mikel Oyarzabal est vraiment important, et c'est là où il crée un gros, gros manque. Mais sinon, l'équipe a vite su se réorganiser dans un nouveau dispositif, a vite su prendre ses marques sans lui. Parce que de toute façon, il allait plus être là, même son esprit n'est plus là, même s'il est avec nous en tribune, il n'était pas sur le terrain, donc il fallait s'adapter. Je pense que l'équipe s'est plutôt bien adaptée, mais c'est vraiment ce problème de finition que là où il était intraitable, on pêche un peu quand même.
Ouais, effectivement, et puis c'est vrai que tu parlais de Porto, alors oui, effectivement, qui est marqué, et puis même de Isak, qui, bon, effectivement, est un cas dont on parle peut-être un peu plus dans la presse, et sur lequel on aura l'occasion de revenir juste après dans les questions. Mais en tout cas, tu le mentionnes bien, et puis merci en tout cas pour cette explication, un peu pour nous justifier comment l'équipe s'est réorganisée sans son capitaine, qui, tu l'as dit, est quand même au quotidien d'un apport assez faramineux. Cyril, ben, je reviens avec toi maintenant pour une dernière question avant qu'on passe plus au détail du match en lui-même. C'est vrai que Pau Torres n'a pas encore prolongé. C'est quand même quelque chose dont on parle un peu dans la presse. Est-ce que pour toi, il faut quand même envisager une vente pour ce qui est quand même bah, l'enfant du club? Parce que Pau Torres est souvent l'exemple aussi du joueur formé à Villarreal et qui triomphe. Donc voilà ce qu'il faudrait, pourquoi pas envisager une vente. On sait que l'année dernière, il y avait eu des rumeurs, je crois, avec Manchester United, où lui avait refusé de partir en tout cas. Donc voilà, quelle est ton opinion, ton point de vue sur ce dossier?
Alors, je pense pour deux raisons, c'est son départ est à la fois inévitable et même, je pense, souhaitable. Sûrement pour lui déjà à titre individuel, donc il faut se rappeler qu'il revient de prêt en 2019, il revient de prêt de Malaga. Et moi, je savais que c'était un garçon qui avait un gros potentiel, mais sincèrement, j'imaginais quand même peut-être pas qu'il allait exploser à ce point-là. Il le doit d'abord et avant tout à un garçon comme Raúl Albiol, qui est un monument absolu à la fois de Villarreal et même, je dirais, du foot espagnol. Je vois, en toute objectivité, je vois pas vraiment de meilleur défenseur espagnol actuellement. Heureusement pour nous, c'est plus un gamin, donc c'est très bien qu'il soit pas appelé en sélection. Mais donc, il le doit beaucoup, beaucoup à Albiol. Et ensuite, il le doit ensuite à Emery aussi, qui a encore fait de lui un autre joueur. On voit sa capacité cette saison, notamment à marquer sur coup de pied arrêté. Il l'a fait hier soir à Vallecas. Il l'a fait, je crois que c'est son sixième but de la saison, toute compétition confondue. Donc, je pense que pour lui, à titre individuel, oui, il a intérêt à. Je pense à tenter sa chance, parce que quand on a l'opportunité d'aller de signer, alors c'était Tottenham qui était arrivé l'année
Effectivement,
dernière avec
ouais.
Tottenham. C'est ça, c'est ça. Et donc évidemment, lui, il avait choisi logiquement de rester une saison de plus pour jouer la Champions avec le club de sa ville. Mais cette saison, donc on parle de United, de City, de Chelsea, a priori, peut-être même encore de Tottenham, sachant qu'il pourrait y avoir, il pourrait rentrer aussi éventuellement dans un deal avec, avec Lo Celso, c'est pas impossible non plus, sachant que Lo Celso n'est que prêté. Donc lui, il y a intérêt, évidemment, ça sera pas simple parce que le faire sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément évident. On voit qu'en sélection, où il est dans un cadre où il a évidemment pas le même statut, où il est avec des pairs qui changent assez régulièrement, c'est plus compliqué, il est moins serein, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas aussi le cas quand il va débarquer là où il débarquera, ou que ce soit. Donc ce ne sera pas simple, mais je pense qu'il a largement les moyens et le niveau pour surpasser ça, mais ce sera un gros test. Et puis ensuite, je dirais que pour le club, c'est aussi quelque chose d'inévitable, parce que ces dernières années, ces deux dernières saisons, et notamment la saison passée, il n'y a pas eu de gros, enfin il n'y a pas eu de transferts en sortie très importants. En fait, il y a eu beaucoup d'investissements dans Danjuma, Boulaïedia, la clause qui a été levée sur Foyt. Donc, ça fait pas mal d'investissements pour en échange pas grand chose en rentrée. Donc, je pense que là, entre comme Sacha le disait, les travaux du stade et qui ont commencé, qui vont coûter quand même la bagatelle de 35-36 millions. Certes, l'accord CVC facilite un peu l'histoire, mais c'était de toutes les façons prévu, budgété, tout ça. Mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose non plus. Et puis, il va falloir de toutes les façons réduire un peu la voilure la saison prochaine, quelle que soit l'issue de cette saison, qui est Europe ou pas. Donc, le club a de toutes les façons, a priori, intérêt à rentrer de l'argent, et là on parle de, quand même du plus gros transfert de potentiel de l'histoire du club. Il a une clause à 70 millions, sachant qu'il partira probablement pour une somme autour de 60 a priori, quoi. Mais non, c'est quelque chose de pratiquement acquis, son départ est quasiment acquis.
Ouais, pour toutes les raisons que tu as évoquées, puis effectivement c'est vrai que tu précises bien également que oui, il faudra aussi des rentrées d'argent pour Villarreal, et c'est vrai qu'un joueur comme Pau Torres, pardon, qui a la cote en ce moment, c'est vrai que ça peut être aussi le moyen de faire ces rentrées d'argent nécessaires. Une dernière question, donc bah, comme je te l'avais dit Lucas juste avant qu'on passe au match plus en lui-même, c'est par rapport à Isaac. C'est vrai qu'il vit une saison assez compliquée, mais surtout voilà, un début d'année 2022 assez compliqué, voire même catastrophique aussi, sur le plan des statistiques. Est-ce que pour toi il faudrait le vendre, sachant qu'on se souvient aussi qu'il avait aussi eu des offres par le passé, il y avait eu des rumeurs en tout cas d'offres par le passé. Maintenant ça revient un peu dans l'actualité. Est-ce que pour toi il faut profiter de ce mercato estival pour vendre un joueur comme Isaac?
Bah oui, comme tu l'as dit, sa saison est catastrophique. Et franchement, donc Alexander Isak, là où la saison dernière, enfin l'été dernier, quand je voyais des offres de clubs comme Arsenal, enfin des clubs anglais qui voulaient payer sa clause, donc qui est à 90 millions d'euros, moi j'avais peur, j'avais vraiment pas envie, j'avais envie de le garder, parce qu'il nous avait claqué une saison à 17 buts, mais on voyait qu'il pouvait faire largement plus, qu'il était intégré au groupe, qu'il était vraiment bien ici. Et cette saison, c'est... On est passé du tout au tout, vraiment. Il n'y arrive pas devant les buts. Il ne se donne pas forcément assez en match. Et là, on se dit que s'il y a moyen de renflouer les caisses avec une vente, bon, pas à 90 millions, mais autour de 50, 60, 70 millions d'euros, je pense que ça peut faire du bien au club. Surtout que derrière, bon, on a peut-être Sorloth, mais qui va peut-être repartir en prêt. On a Carlos Fernandez qui va revenir de blessure. On a Julen Lobete qui peut monter. Hein. On a Yann Karikaburu qui peut monter aussi. Donc, on a du monde derrière. Donc, franchement, si on peut renflouer les caisses pour se renforcer à d'autres endroits où il y a moins de monde, comme les latéraux, où franchement, on a un déficit cette saison, ou se servir du Sensei pour alimenter l'équipe première, si on arrive à vendre un Isaac pas trop en forme, qui n'y arrive pas trop aux alentours des 70 millions, ce serait honnêtement une très très bonne affaire. Mais après, on ne sait jamais, peut-être que c'était une saison sans, plein de footballeurs sont passés par là, il est humain, et peut-être qu'après un bon été, des bonnes vacances, un peu de repos, il retrouvera sa forme d'antan. Donc franchement, il faudra étudier les offres, étudier ce que nous on peut faire, et voir en fonction, parce que si on peut quand même avoir un joueur comme Isaac, par exemple, si on lui met, si on compte ses poteaux comme des buts, ça fait facilement une dizaine. Après, c'est simple quand on dit ça, mais si on retrouve un Isaac comme on a eu la saison dernière, il pourra largement nous aider à accrocher un top 4 comme on parlait juste avant. Mais si on retrouve un peu Isaac démotivé, qui joue pas pour l'équipe, dans le sens de l'équipe, franchement, le vendre pour au moins 60 millions, c'est une très bonne affaire. Et donc 60 millions qu'on pourra réinvestir dans des contrats pour des joueurs importants ou même dans des transferts pour se renforcer. Mais oui, c'est vrai que bon, comme tu l'as dit, la saison d'Isaac, elle est vraiment à oublier. Et j'espère que si on arrive à le garder ou si on le garde parce qu'il n'y a pas d'offre assez intéressante, ben on pourra compter sur lui pour la saison prochaine et qui nous plante des buts.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu le dilemme aussi de savoir si est-ce que c'était juste une saison sans ou ce qui est il faut pas non plus peut-être le vendre maintenant avant qu'il loupe potentiellement une seconde saison de suite. Sacha, est-ce que tu rejoins un peu Lucas sur ce point, puis après on passera au
Oui,
match en lui-même.
ben, comme d'habitude, je le rejoins parce que quelque part, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être fou. Tu t'imagines, on te dit la Real Sociedad a demandé la clause alors qu'ils auraient pu peut-être recevoir une offre de 70, 75 millions. Et c'est vrai que maintenant, quand tu vois sa saison, c'est un joueur qui a des fois aussi de la malchance parce qu'il mine de rien, il bouge bien, il arrive à bien se situer dans l'espace, il arrive toujours à se démarquer et du coup à amener le danger, mais il a ce terrible problème de finition. Il y a des moments devant ma télé, je me dis, mais c'est Morata, quoi, c'est la même chose. T'as l'impression, il loupe des choses toutes faites. Un peu comme aussi, pour parler de l'autre club basque, des fois, Iñaki Williams, tu trouves que le joueur est super intéressant, mais il n'arrive pas à la mettre au fond, et quand tu es numéro 9, c'est quand même un peu plus compliqué. Maintenant, je salue aussi quand même, mine de rien, la volonté de la Real Sociedad, parce qu'au travers de ben justement cette inflexibilité de demander la clause, un peu comme Séville pour Koundé, on voit une vraie volonté de progresser, de miser sur le sportif, ben, quitte à peut-être s'asseoir sur quelques millions l'été prochain, ou de devoir encore garder un joueur en méforme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, je pense que ça reste aussi un très bon joueur, que... Ben, il a peut-être aussi besoin de couper, mine de rien, ça reste des joueurs entre le Covid, puis les calendriers à rallonge, l'Euro, tout ça. Peut-être qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui aujourd'hui dans certaines équipes ont envie de couper, d'avoir 3 4 semaines vraiment où ils peuvent ben, débrancher le cerveau et ensuite revenir à fond pour la prochaine saison. Peut-être que c'est avant tout un problème comme ça pour lui. Moi, je pense que je le garderai mine de rien parce que c'est vrai qu'après s'il y a une offre de 60-70 millions à nouveau, bon ben là pour le coup ça reste un montant difficile à refuser, surtout qu'on sait quand même que économiquement les clubs espagnols souffrent encore, qu'il y a quand même pas mal de stades qui n'ont pas aussi retrouvé leur niveau d'affluence d'avant Covid et que donc justement ça occasionne des pertes. Mais non, je pense qu'il faut le garder cette base d'équipe qui reste très intéressante et peut-être essayer de la faire progresser encore avec des achats bien sentis ou du moins des prêts, en pensant notamment à celui de Rafinha qui a été fait, qui pour moi n'a pas été un mauvais joueur et a apporté quand même un peu de qualité. Donc voilà. Pourquoi pas le garder? Après, c'est sûr que si jamais Arsenal revient à la charge, bon, ben là, déposer le chèque et puis ils trouveront bien un autre joueur. C'est un club qui travaille très très bien, je m'en fous pas pour eux.
Exactement, donc aviser aussi voilà, en fonction de la situation et puis de potentielles offres et avoir le montant parce que c'est ce que disait Lucas tout à l'heure, il y a peut-être aussi pour le moment pas eu assez d'offres intéressantes. On va passer un peu plus au match en lui-même, j'ai commencé avec toi Cyril en faisant un petit point sur l'infirmerie, qu'est-ce que tu peux nous dire voilà tes joueurs absents pour cette rencontre et puis bah, ceux qui reviennent éventuellement ce dimanche.
Eh ben, alors là, pour les absents, rien de moins que la ligne d'attaque titulaire intégrale, quoi. Évidemment, Gérard Moreno qui sera pour sa saison est terminée. Ça a été un calvaire absolu cette année et ça explique en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie notre saison un peu moyenne en Liga, en espérant que l'année prochaine ce sera différent. Parce que ça a beaucoup pesé. Danjuma, qui lui aussi, je pense que sa saison est pour le moment terminée. Lui aussi, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Il a montré des choses extraordinaires par moment, Mais il y a une grosse absence entre décembre, janvier, là à nouveau depuis après le match de Liverpool, le match aller contre Liverpool. Donc lui aussi sera absent. Jérémy aussi, Jérémy Pinault, qui alors lui a peut-être possibilité de le voir sur le dernier match à Barcelone, mais ça va être quand même être compliqué. Autant là donc pour dimanche, c'est sûr qu'il sera out. Le seul doute, sinon, il y avait peut-être un petit doute sur Lo Celso, qui est sorti à la mi-temps du match à Vallecas jeudi soir. À la base, moi, je pensais que c'était uniquement pour le faire un peu souffler en vue de dimanche, mais j'ai lu ensuite que apparemment, il se ressentait d'une douleur aux adducteurs. Et a priori, là encore, d'après ce que j'ai lu et entendu, ce serait quelque chose d'assez bénin et ça l'empêcherait pas d'être là dimanche. Donc voilà, ça fait quand même pas mal au niveau de la ligne d'attaque titulaire, c'est déjà pas mal, quoi.
Bah c'est très bien, ouais, donc pas mal d'absents, surtout sur le plan offensif, c'est ce que tu expliquais. Et puis Lucas, bah, je te relance pareil sur la même question pour les absents et puis les retours également.
Là, sur les absents, donc contrairement à plus tôt dans la saison, bon, on a encore nos blessés de longue date, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Nacho Monreal et Carlos Fernandez. Et sinon, le groupe est au complet. Et pour une fois, on pourra compter sur un groupe plutôt complet sur cette fin de saison.
Et bah, très bien, donc un contraste on va dire par rapport à Villarreal. Et puis bah, Lucas, je reste avec toi pour la question suivante. Toi, comment tu vois cette rencontre, comme on a l'habitude de le demander? Puis pareil, si jamais tu avais un joueur, un élément en particulier à citer pour faire pencher la rencontre en faveur de la Real ou pas d'ailleurs, je te laisse nous donner ça.
Je suis pas forcément très confiant parce qu'on a une stat assez inquiétante cette saison. On n'a toujours pas gagné contre une équipe du top 8. Et donc, dans un moment où il nous reste deux équipes du top 8 à jouer, si on regarde seulement les statistiques, ça peut être compliqué. De plus, Villarreal s'était imposé 3-1 à Anoeta dans un match qu'ils avaient globalement maîtrisé, où on n'avait pas vraiment existé. Et encore, on vient de perdre des points assez bêtement contre le Rayo et Levante, donc qui est déjà en Segunda. Donc c'est impossible de perdre contre Levante, et même le Rayo faire match nul quand on voit que nos adversaires leur ont mis un gros score. Se dit que c'est pas forcément très très rassurant. Donc, au vu de ce match, mais bon, on sait jamais, une équipe révoltée qui a vraiment à cœur de tenir cette Europa League, pourront se surpasser, et on sait jamais, c'est toujours le moment de mettre fin à cette série de disettes contre les équipes du top 8. Et pour en venir au point fort qui pourrait nous faire basculer ce match, ben moi je pense à notre défense, toujours, enfin, entre Robin Lenormand, Rémy Rault, et en ce moment, donc c'est plutôt Soubelia préféré à Ritz. Et sinon, si je pouvais donner un autre petit joueur, je dirais Alexander Sorloth, qui depuis quelques matchs se met à marquer, il met même des beaux buts, il a confiance en lui, et on aura besoin d'un Alexander Sorloth confiant à la Ceramica pour marquer des buts pour la Real.
Eh bien, c'est très bien, merci pour l'avis, puis pour les joueurs éventuellement aussi que tu as cités qui seront, on va dire, un peu à suivre. Et puis bah, Cyril, voilà, avant de passer la parole à Sacha, je te pose la même question, ton opinion sur ce match, comment tu le vois, et puis le joueur à citer pour, on va dire, le joueur un peu plus détonateur dans cette rencontre.
Alors, j'aurais plutôt tendance, ce qui m'arrive rarement, mais être assez confiant quand même malgré tout. Parce que ben, contrairement à Lucas et à la Real, justement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que nous, on est justement plus à l'aise contre ce genre d'adversaires, des équipes de haut de tableau, contre lesquelles on a assez bien réussi cette saison. L'état de forme, enfin les performances depuis l'élimination en demi-finale de Champions sont plutôt bonnes. On fait un assez bon match contre Séville, un très bon match contre Séville, un de nos meilleurs de la saison. Où on a vraiment vu le Villarreal niveau de Champions ou meilleur niveau en Liga. Bon, il y a eu ce match jeudi soir à Vallecas, je ne sais pas si on a beaucoup d'enseignements à tirer d'un match comme ça, mais parce que l'adversaire n'avait plus grand-chose à jouer avec son maintien quelques jours avant, mais malgré tout, il fait quand même aller le chercher dans un stade où c'est jamais évident d'aller faire quelque chose. Donc l'état de forme est plutôt bon malgré la chose qui m'inquiète, c'est un peu comme pour beaucoup d'équipes, on n'est pas les seuls, mais l'état de fraîcheur physique, ça commence à être un peu compliqué avec des cadres qui sont plus des gamins, Albiol, Parejo, Capou, qui ont très peu tourné cette saison. Le côté qui me rassure, c'est que le coup d'envoi était décalé d'une heure et ce sera 19h30, ce qui peut avoir un petit impact positif pour nous. Donc sinon, je dirais qu'il y a en plus il y a le cadre en fait qui incite à ce que enfin qui je cherche mes mots qui fait que ça sera un match un peu particulier dans le sens où ce sera le dernier match à la Ceramica dans 7 mois avec les travaux de rénovation donc il y aura une petite charge émotionnelle. Ce sera le 15 mai, donc ce sera les 25 ans d'arrivée de Fernando Roche à la tête du club. Donc, autre charge émotionnelle. Et puis, en plus, ce sera là, on est en plein dans ce week-end dans les fêtes patronales, les fêtes de la San Pasquale, qui sont très, très importantes partout en Espagne, mais notamment à Villarreal, et qui n'ont pas pu avoir lieu depuis 3 ans. Donc, ça garantit une ambiance assez festive, assez chaude en ville, et donc autour du stade et jusque dans le stade, où je pense qu'on aura une ambiance assez sympa. Pas mal de raisons d'être assez optimiste, même si du côté Real Sociedad, je crains un petit peu leur doublette d'attaquant. Isak, même si oui, d'accord, il fait pas une bonne saison, mais je me souviens de son but à l'aller. Je pense qu'il est capable, il nous en avait déjà mis un but aussi la saison d'avant, si mes souvenirs sont bons, à la Ceramica en fin de match. Donc, et puis Sorloth aussi, que je crains pas mal. Mais sinon, de notre côté, je sais pas, pourquoi pas Paco Alcácer qui a fait une saison quasi inexistante. Emery, lui, n'a pas vraiment confiance en lui, mais les rares fois où on l'a vu, il est rarement décevant. Il a vraiment cet instinct du buteur qui reste malgré son peu de rythme et son peu de temps de jeu et ce qu'on a vu à Vallecas jeudi. J'espère le voir titulaire. J'espère le voir titulaire dimanche et je pense que c'est peut-être... en plus, lui, il est frais pour le coup. Donc, je pense que vraiment, Il peut peut-être, sait-on jamais, être le facteur X de ce match.
Très bien, ouais, donc Paco Alcácer, c'est vrai, tu le disais, qui a eu un peu moins de protagonisme cette saison, qui pourrait donc faire basculer ce match. Puis, je termine avec toi, Sacha. Pareil, la même question, ton opinion sur le match, et puis si tu as un joueur un peu à citer, sachant que voilà, c'est un peu aussi ce que Lucas et Cyril ont dit, c'est vrai qu'on a aussi deux équipes comme très différentes, qui ont un rapport différent au match face aux concurrents directs, on va dire. Donc voilà, comment toi tu vois cette rencontre en étant un peu plus neutre, on va dire.
Ben écoute, je la vois comme un super match de football. C'est pour ce genre de match qu'on est un peu triste d'avoir un multiplex, parce que moi, vous doutez bien que j'aurai mon regard de rivet sur le Coliseum avec le match entre Getafe et le Barça, mais je manquerai pas de le regarder en replay. Et c'est vrai que c'est dommage, voilà, d'avoir autant d'affiches ce week-end-là, même l'Atleti Séville aussi qui nous attend. Mais non, après c'est un match qui respire le jeu tout simplement. C'est vrai, comme Cyril l'a dit, maintenant qu'il n'y a plus la Ligue des Champions, on va peut-être voir un Villarreal libéré, un Villarreal qui montre un super visage, comme celui qu'il a affiché face à Séville dans un match que Villarreal aurait dû largement remporter. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment deux équipes qui sont en confiance, qui sont aussi consciente qu'elles doivent assurer la meilleure place possible et au minimum, je pense, les deux. Là, c'est 3, c'est l'objectif des deux groupes. Maintenant, voilà, il y a des joueurs pétris de talent de tous les côtés. C'est vrai que l'horaire est peut-être un peu meilleur parce que jouer à 19h30, c'est mieux que de jouer à 18h30 ou même encore avant en Espagne parce que la température est moins importante, la seconde période a lieu un peu à la tombée de la nuit, donc voilà, pour les organismes, c'est une meilleure chose. Après, encore une fois aussi, ce sont deux équipes qui arrivent sur la toute fin de saison. C'est vrai que le duel de milieu de terrain va être très impressionnant parce que c'est vraiment deux secteurs très plaisants de ces deux équipes. On voit des profils de part et d'autre avec des joueurs qui sont très complémentaires, qui aiment vraiment jouer au football. Ça respire, voilà, le football que l'on aime. Donc, vraiment, je pense que ça va être un match plaisir. Avec pourquoi pas un joueur qui pourrait faire basculer la la rencontre. Je dirais aussi Sorloth, mine de rien, parce que je pense qu'il est capable dans cette défense de Villarreal de faire du mal. C'est typiquement, je pense, le genre d'attaquant que par exemple un Pau Torres peut avoir du mal à gérer. Et si jamais les autres joueurs du côté de la Real Sociedad se mettent à donner du pain sur la planche à Raúl Albiol, il peut à un moment, je pense, arriver à bien sentir les espaces. Il est en confiance aussi, comme Lucas l'a dit. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un joueur qui peut faire la différence et amener la Real Sociedad vers une victoire. Mais encore une fois, c'est vraiment un match aussi qui peut aller dans les deux sens.
Eh ben c'est parfait, merci pour ce point de vue un peu plus extérieur. C'est vrai que tu l'as dit, ce multiplex qui malheureusement bon, empêchera d'avoir un œil partout, mais il y a pourtant voilà, des affiches en jeu sur à peu près toutes les pelouses, avec bien sûr de plus ou moins grands enjeux selon les équipes, mais toutes ont un enjeu en tout cas particulier. Et puis bon, on va finir ce podcast avec les pronostics. Je commence avec toi, Cyril, si tu veux bien. Voilà ton pronostic pour ce match du dimanche.
Bah, comme je l'ai dit, je veux être optimiste, mais je suis assez optimiste. Je dirais bien une petite victoire 2-1, avec peut-être une ouverture du score de Paco, une égalisation de Sorloth, qui va peut-être nous faire un peu du grabuge derrière. Et peut-être aller, je sais pas, un but de Capou, de Papa Capou sur la fin de rencontre comme un symbole de sa super saison. Voilà, d'aller victoire 2-1.
Victoire 2-1 donc pour Villarreal, pour Cyril. Lucas, de ton côté.
Ben, moi, je vois un match avec beaucoup moins de buts. Et bon, forcément, une victoire de la Real sur le plus petit des scores. Donc, une victoire à 1-0 ben, avec un but, comme on le dit depuis tout à l'heure, de Sorloth.
Une victoire de la Real 1-0 donc. Et puis, ben, Sacha, ton prono également pour cette rencontre.
Au moins, un petit match sympathique, assez fou, avec pas mal de buts. Et peut-être une victoire 3-2 de la Real Sociedad qui viendrait quand même faire la surprise, mais qui, voilà, deux équipes qui se répondraient du tac au tac, mais ouais, peut-être un 3-2 pour la Real.
Et bah c'est noté, puis pour ma part, moi je vois bien un match nul parce qu'on a quand même deux équipes qui sont en forme, enfin du moins qui savent aussi qu'elles ont beaucoup à jouer sur ce match. Moi je verrais bien par contre un match nul avec des buts et pourquoi pas un 2 partout à la Ceramica, ça pourrait voilà, nous offrir un beau match comme tu le disais Sacha tout à l'heure. Un beau match de foot en tout cas, c'est ce qu'on espère et puis on espère aussi avoir donné à nos auditeurs l'envie de regarder ce match peut-être de façon plus approfondie parce que voilà, on arrive à la fin de ce numéro. Je vais vous remercier eh bien, d'abord toi Cyril d'être passé. Merci beaucoup d'être revenu pour nous parler de Villarreal et puis qu'on ait pu voilà, débriefer toute cette actualité très intéressante qu'il y avait du côté de Villarreal.
Bien, merci beaucoup à vous, merci pour tout, merci pour tout ce que vous faites. À bientôt.
À bientôt et puis merci aussi à toi Lucas d'être venu pour nous parler de cette Real. Donc on l'a dit, troisième saison de suite en Europe. Merci à toi d'être revenu.
Merci beaucoup de m'inviter, surtout. Ça me fait toujours plaisir de venir ici parler de mon club. Et j'espère un très beau match et une qualification et une bonne option de qualification pour l'Europa League.
Effectivement, tu l'as résumé parce que c'est vrai que selon les voilà, il restera toujours des petits comptes à faire en tout cas après la fin de cette journée parce que c'est vrai qu'un match nul en tout cas laisserait toujours la possibilité à Villarreal possiblement d'être sixième à l'issue de la dernière journée. Et puis bah Sacha, merci aussi d'être venu pour compléter tout ce que nos invités ont pu donner et puis voilà tous ces comparatifs que tu as pu faire et ton point de vue en tout cas un peu plus extérieur sur cette rencontre.
Avec plaisir, voilà, c'est toujours le maître mot. En tout cas, j'espère que vous avez vous aussi hâte de regarder ce match, que vous avez pris du plaisir en nous écoutant. Voilà, c'est le maître mot, c'est vraiment de trouver. Et puis on se dit à très vite aussi pour l'autre podcast entre l'Atleti et le Séville de Lopetegui. Donc voilà, beaucoup de plaisir et puis surtout bon match à tous.
Exactement, bon match à tous et puis on se dit à très bientôt.